Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour Frédéric Geoffrin.
Bonjour.
Alors, vous êtes le fils d'André qui, il y a 35 ans, créa un bureau d'études indépendant sur le solaire. Il fallait y croire à cette époque pour se lancer dans cette aventure. Donc, parlez-nous un petit peu de Texsol. Texsol, c'est un secteur qui a évolué, que vous avez suivi, qui a commencé par faire du solaire, aujourd'hui s'occupe de numérique, d'autoconsommation, de formation, etc. Donc, on n'a pas tellement l'habitude, à Nous n'avons qu'une terre, de parler des sociétés, mais Texsol est un peu pionnier en la matière, et donc, dites-nous un petit peu quand même à quoi ressemble cette société.
Oui, bien sûr, merci pour l'introduction. Donc Texsol, c'est une société d'ingénierie qui a été fondée dans les années 80, donc comme vous le dites, c'est une société qui est un peu différente des autres parce qu'elle a été créée à un moment où l'énergie solaire était représentait pas grand-chose, on va dire, en France, et restait balbutiante pendant de nombreuses décennies, avant de connaître l'essor là, des 2 dernières décennies, on va dire, avec une industrialisation de masse de cette technologie. Il y a 40 ans, le solaire en France, c'était surtout du solaire thermique. Donc c'était produire de la chaleur, en fait, avec le rayonnement solaire. C'était bien avant le solaire photovoltaïque, qui était à l'époque réservé juste aux satellites de la NASA. Donc effectivement, il y a 40 ans, c'était d'abord des militants dont André faisait partie. Donc ils ont créé cette société Texsol à 4 personnes. Ils sont longtemps restés une toute petite équipe. Et aujourd'hui, c'est devenu une société d'ingénierie qui est un peu plus importante, puisqu'on est au total 70 personnes réparties dans plusieurs agences régionales.
Et alors vous ne faites pas maintenant, dorénavant, vous ne faites plus que du solaire. Enfin, vous n'êtes pas lié simplement à la dimension solaire. Vous faites, j'ai vu que Texsol était, enfin, présidé le pôle de compétitivité d'Herbie, par exemple. Ça veut dire quoi, ça ?
Alors, le pôle de compétitivité d'Herbie, c'est effectivement l'une des fonctions d'André qui préside ce pôle de compétitivité et qui implique, du coup, Texsol dans ce projet de territoire. En fait, le pôle de compétitivité, c'est le trait d'union entre tous les acteurs de la transition énergétique au niveau régional.
Et le niveau régional, c'est celui du Languedoc-Roussillon, puisque...
C'est l'Occitanie maintenant.
Oui, c'est l'Occitanie maintenant, voilà.
Voilà, ouais, avec Toulouse, Montpellier, Perpignan et puis toutes les villes de taille intermédiaire qui peuplent la région Occitanie. Donc c'est le pôle d'Herbie, c'est vraiment le trait d'union entre l'industrie, les formes associatives et tout ce qui a trait à la formation, donc les écoles d'ingénieurs, les universités. Et en fait, ça permet de créer du lien, créer des projets communs qui soient partagés entre l'éducation et puis l'industrie également pour...
Et c'est pour ça que vous faites beaucoup de formations à Texsol.
Alors Texsol, voilà, la particularité, c'est qu'on a un savoir-faire qui est ancien, qu'on est obligé d'actualiser très fréquemment parce que c'est une technologie, c'est une industrie qui évolue très très vite avec des cycles technologiques très courts. Donc effectivement, on a un savoir-faire qui est très important, qui est là depuis longtemps et qu'on partage, donc on ne le garde pas jalousement pour nous. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez avant, c'est que on n'est pas une société exactement comme les autres. On fait en sorte qu'il y ait le plus de personnes qui puissent faire du solaire en France pour que finalement ça profite au plus grand nombre au lieu de garder ça jalousement pour nous. Donc on fait beaucoup de formations. On forme à peu près 1500 personnes par an en France, en Hexagone et dans les Outre-mer. Donc, effectivement, c'est énormément de formation. Oui.
Bon, on va en reparler. Alors, parlons un petit peu de vous. On a compris que vous êtes tombé dans la marmite tout petit, puisque, en fait, votre père était là-dedans. Vous avez continué. Ouais. Vous êtes ingénieur. Vous avez poursuivi vos études en Chine. Vous revenez de Chine et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, racontez-nous un petit peu votre parcours. Hein. Comment vous êtes atterri là-bas?
Alors moi j'ai fait l'INSA à Toulouse il y a 10 ans, donc une école d'ingénieurs française qui m'a permis en dernier semestre de partir étudier à l'université de Tongji en Chine, donc c'était il y a pile 10 ans, 2014, et je me suis dit que ça faisait un petit moment que j'y étais pas retourné, que finalement il y a énormément de produits avec lesquels on travaille qui sont produits en Chine, donc les panneaux photovoltaïques, les batteries, aujourd'hui 97% je crois de la production mondiale est une production et de production chinoise. Donc je décide d'y retourner cet été et je me suis rendu compte que c'était un pays qui avait beaucoup changé en 10 ans. C'était assez impressionnant avec des usines qui étaient entièrement automatisées, avec quasiment plus de personnel dans les usines.
Alors avant de parler effectivement du bond en avant, on va reprendre ce terme de la Chine, continuons à parler un petit peu de vous. Donc vous avez fait vos études à Toulouse et puis vous êtes parti là-bas. Donc vous connaissez assez bien finalement... vous avez passé combien de temps d'études en Chine pour apprendre finalement la culture, la langue?
Oui, ben, j'ai passé 6 mois sur mon dernier cycle de formation à l'INSA de Toulouse. J'ai passé 6 mois à Shanghai. Et effectivement, c'est un grand choc culturel parce que je ne connaissais rien de ce pays. Puis je n'avais pas forcément fait l'effort d'apprendre le chinois avant de partir. C'est une langue quand même complexe et qui demande du temps pour être apprise. Donc je me suis formé là-bas sur place, j'ai appris la langue sur place. Effectivement, il y a un grand saut culturel à faire.
Alors quand vous parlez de saut culturel justement, vous voulez dire quoi?
Alors y a la culture, vous savez, elle est assez diverse, mais c'est vrai qu'il y a quasiment rien qui ressemble à chez nous, que ce soit la culture gastronomique, culinaire par exemple. Les plats qu'on mange sont complètement différents. La langue qui est parlée est complètement différente, même dans les relations avec les personnes, les postures ou la façon de parler, de se présenter, les formes de politesse sont également extrêmement différentes. Donc il y a beaucoup d'impairs à ne pas commettre quand on étudiant c'est quelque chose.
Donnez-nous un exemple d'impairs à ne pas commettre, par exemple.
Ben, par exemple, on peut pas trop dire non, c'est-à-dire que refuser une invitation à déjeuner ou refuser une proposition quand on va visiter des fabricants.
C'est comme en Afrique, on peut pas dire non.
On peut dire non, mais on se ferme beaucoup de portes et on vexe la personne fortement. Donc on est un peu obligé de goûter à tous les plats, par exemple, quand ils nous amènent au restaurant, même les plats les plus exotiques. Donc, c'est rigolo.
Bon, alors la Chine aujourd'hui, ça ressemble à quoi?
La Chine aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à la synthèse des États-Unis et de l'Europe, si vous voulez, avec un niveau d'infrastructure extrêmement élevé et très développé. C'est-à-dire que c'est l'endroit dans le monde où vous allez voir les plus beaux aéroports, les plus belles gares, les plus belles autoroutes. Donc ils ont mis très peu de temps à construire tout ça. Et ils l'ont fait extrêmement bien et souvent accompagnés par des consultants ou des bureaux d'ingénierie américains et européens. Donc ils sont vraiment, du point de vue de l'infrastructure, ils sont très très avancés. Et ensuite, au niveau de la population, ils commencent à avoir les mêmes considérations que ce que nous, on a pu avoir dans les années 80. Alors moi, je n'étais pas encore là puisque je suis en 90, mais je me suis bien imprégné de ce que nous ont raconté nos anciens, avec des considérations pour la retraite, pour un régime social plus favorable, un temps de travail moins important, des rémunérations également.
On parle, d'ici on parle de la Chine, on parle d'un régime autoritaire et on se demande parfois finalement il faudra en passer par ce régime autoritaire pour envisager un monde nouveau, parce qu'on dit aussi que la Chine sera le leader de l'environnement demain. Alors votre avis sur la question, est-ce qu'effectivement un monde autoritaire permet d'avancer plus vite en termes d'écologie?
Alors, s'il permet d'avancer plus vite, c'est possible, mais est-ce qu'il permet d'avancer longtemps? C'est ça la vraie question. Et j'ai le sentiment que la Chine est quand même un tournant social auquel ils vont devoir répondre. Quand même, le régime autoritaire se rend compte que la croissance infinie, ça n'existe pas, qu'ils commencent à avoir des difficultés à continuer de croître à l'intérieur du pays, donc ils sont obligés d'exporter énormément. Il n'y a plus forcément du travail pour tout le monde, que les progressions de carrière qui ont eu lieu depuis 30 ans en Chine, ben, elles ne sont plus forcément possibles. Et en fait, je retrouve, moi, dans le discours de mes copains de promotion ingénieurs chinois, exactement le discours qu'on peut avoir, nous, en Occident. Donc le régime est certes très différent, mais par contre, les considérations de la population, elles sont quand même assez similaires. Donc, un régime autoritaire pour aller vite, peut-être, mais est-ce qu'il va être capable de durer très longtemps, ce régime autoritaire? Ça, j'en doute un peu.
Alors, vous avez rencontré là-bas, quand même, sur le plan, justement, de l'environnement, enfin, le plan qui vous intéresse particulièrement, le solaire, je pense, une avancée considérable.
Oui, oui, de toute manière, aujourd'hui, ça constitue, comme je vous le disais, 97% de l'industrie de mon monde, c'est-à-dire le solaire et le stockage d'énergie. Ça vient de Chine, quoi. Tout est produit en Chine, dans des usines extrêmement modernes, sur des cycles technologiques très courts. Donc tous les deux ans, les usines sont renouvelées, les chaînes de fabrication évoluent vers des technologies nouvelles avec des prix plus bas, des performances plus importantes. Donc la réponse technologique, elle vient clairement de la Chine. Et sur les 10 dernières années, la montée en compétitivité des technologies photovoltaïques et donc la baisse du coût de revient d'électricité d'origine renouvelable, on la doit beaucoup à ce qu'a fait la Chine pour le monde entier. D'abord pour eux, et puis tout le monde en a profité.
Et donc, ce que vous craignez, c'est que cela ne dure pas?
Alors, soit que ça ne dure pas, soit qu'ils évoluent vers une industrie qui a besoin de moins de main-d'œuvre, et donc finalement, qu'ils s'affranchissent un petit peu de toute considération sociale qui puisse entourer l'outil industriel chinois. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, il y a 10 ans, il y avait énormément de personnel dans les usines. Quand j'y suis retourné cet été, il n'y avait quasiment plus personne. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre de grandeur, le nombre de panneaux qui est nécessaire à l'installation en France tous les ans, donc c'est entre 3 et 5 gigawatts crête par an à peu près, en Chine, cette quantité de panneaux, ils arrivent à la produire avec à peu près 25 personnes.
Alors qu'en France,
France, on a pour l'instant pas l'outil industriel, mais je pense que ça serait peut-être 10 ou 10 fois plus de personnes à peu près, ouais.
D'accord. Donc, en fait, un énorme savoir-faire en termes de production, quoi. Et voilà.
Exactement. Ouais.
Et donc, un nombre important de travailleurs qui vont se trouver sur le carreau.
Absolument, qui se trouvent déjà sur le carreau, ouais.
Alors, revenons en France. Quand vous êtes revenu en France, vous avez vu que nous étions très en retard sur les ENR, puisque dit qu'on est trois fois au moins en retard, hein, enfin 30% en retard sur nos ambitions européennes, ou en tout cas sur ce qu'on a annoncé. Ce retard, vous le voyez comment, vous?
Alors, je le vois comme... j'aime pas trop m'apitoyer sur le passé. Je le vois plus comme une opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard, certes, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de politiques d'incitation à l'échelle nationale. Mais depuis, on va dire, 5-6 ans, ça a beaucoup changé. Et en fait, tout le retard qui a été pris, maintenant, il faut le combler. Et ça donne un élan formidable pour toutes les entreprises françaises, pour tous les développeurs dans les régions, pour tous nos champions nationaux aussi, tous nos grands groupes industriels. Et donc je pense que c'est vraiment une opportunité. Alors certes, on a pris du retard, mais bon, le retard, il est pris, on ne pourra pas revenir dessus. Maintenant, là où il faut réfléchir, c'est comment on comble ce retard et qu'est-ce qu'on met en place en termes politiques, en termes industriels, pour aller de l'avant et rattraper les grands champions européens, les grands champions mondiaux, que peuvent être l'Allemagne, par exemple, les Chinois, les Américains.
On est assez mal partis, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous êtes très loin, mais ce matin, par exemple, le Rassemblement national est opposé à ce que propose Michel Barnier sur l'environnement. Alors, on a déjà des coupes claires, hein, dans le budget. on a maintenant un recul. Est-ce qu'on va réussir à rattraper ce retard? Est-ce que vous êtes, vous, optimiste? Apparemment, vous essayez de l'être, mais les
faits... Non, mais je le suis profondément. Je le suis profondément. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai le sentiment que, en fait, le photovoltaïque, c'est pas que de l'écologie. Si vous voulez, l'écologie, c'est l'une des composantes du photovoltaïque et de façon générale de la production d'énergie renouvelable, mais c'est aussi devenu un business en fait. Et nous on l'a vu depuis les 20 dernières années, on est passé d'une clientèle qui était une clientèle très concernée par l'écologie à une clientèle qui était beaucoup plus concernée par le business en fait, par les investissements, la rentabilité de ce qui pouvait être associé aux énergies renouvelables. Et donc le Rassemblement National, même s'il s'oppose peut-être à la dimension écologique, parce qu'ils servent un petit peu leur classe politique sur ce point-là, ils vont pas pouvoir s'opposer en fait à la rémunération que génèrent les énergies renouvelables pour toutes les régions, pour toutes les collectivités locales, puisque cette industrie-là paye des taxes à échelon local, crée de l'emploi à échelon local, de plus en plus d'emplois. Et ça, je vois pas quelle politique aura le courage de s'opposer au fait qu'il y ait une industrie locale qui génère des revenus localement.
Oui, mais vous avez vu que l'investissement français est majoritairement axé vers le nucléaire aujourd'hui et qu'on continue à négliger les énergies renouvelables. Donc, vous en pensez quoi de ça?
Parce que ça attaque
directement le business, justement. Si les investissements se font vers le nucléaire, ils ne se font pas vers les ENR.
Alors, c'est deux types d'investissements, c'est-à-dire que vous avez un investissement qui est plus d'ordre national, forcément, pour construire des actifs de production d'électricité comme le nucléaire, qui ont besoin d'être largement... EDF a été quasi nationalisé, puisque 100% du capital d'EDF est détenu par l'État. Donc, ils ont besoin d'être financés par l'État, en fait, ces actifs. Ils sont trop coûteux, trop risqués, ils ont une durée de développement qui est trop importante pour pouvoir être financés par le privé. Donc ça, c'est du financement de l'État, c'est quelque chose. Ensuite, il y a toute la dimension énergie renouvelable qui aujourd'hui est financée par le privé. C'est-à-dire que c'est plus l'État qui finance ça. Puisqu'en fait, il y a une rentabilité, il y a des conditions de marché, il y a un équilibre qui a été trouvé entre le coût de production des énergies renouvelables et le coût de commercialisation de l'électricité d'origine nucléaire. Donc aujourd'hui, le renouvelable est moins cher que le nucléaire. Donc si vous voulez, ça attire naturellement des flux privés financiers qui permettent de développer ces industries-là. Donc même si on a moins d'argent public pour le développer, en fait, il y a déjà une rentabilité naturelle sur les énergies renouvelables qui font qu'elles vont de toute façon continuer de se développer avec de l'argent privé.
Donc de l'avenir.
Exactement.
Alors, quand on s'adresse à vous, votre adresse mail nous renvoie vers l'outre-mer. Alors, on est Texol Antilles. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et parlez-nous un peu de la situation donc dans les outre-mer.
Bien sûr, bien sûr. Mais, alors oui, moi, je suis en charge de la filiale Outre-mer depuis 6 ans, donc avec des implantations sur toutes les îles de la Caraïbe, de Saint-Martin, Saint-Barthélemy jusqu'en Guyane, en passant par la Guadeloupe et la Martinique, et d'autres îles, on va dire, plus anglo-saxonnes, qui font partie du Commonwealth, sur lesquelles on intervient projet par projet. Et donc là-bas, on fait exactement les mêmes activités qu'en Hexagone, c'est-à-dire de l'ingénierie, de la formation. On intervient auprès de tout type de clients, commerciaux, industriels, collectivités, institutionnelles, donc pour construire des hôpitaux, pour construire des grands centres commerciaux, comme c'est très à la mode dans la Caraïbe, puisqu'il y a une grosse culture qui vient des États-Unis. Voilà. Et la situation sur place, elle est plus ou moins apaisée en fonction des territoires. En ce moment, la Martinique est assez animé, on va dire, et pas dans le bon sens du terme, avec des problématiques que je pense on a un peu de mal à mesurer depuis l'Hexagone, mais qui sont historiques dans les Antilles françaises et en Guyane, avec une importation qui est fortement taxée, avec du coup des prix à la consommation qui sont beaucoup plus élevés qu'en Hexagone, et des rémunérations qui ne sont pas forcément aussi élevées.
Il y a beaucoup à faire. Enfin, moi, je connais assez bien les Antilles, en tout cas les Caraïbes. Il est clair que la situation guadeloupéenne en termes d'ENR n'a rien à voir avec la situation guyanaise.
Absolument, absolument. Et effectivement, Alors, ce qu'ont en commun ces territoires d'outre-mer, c'est qu'ils ont des productions d'électricité qui sont très carbonées. C'est-à-dire, comparativement à la France, on en parlait, à l'Hexagone, dont on parlait juste avant, qui a une production qui est majoritairement nucléaire à 75%, du coup, très peu carbonée.
Enfin, pour l'électricité seulement, hein, n'oublions pas.
Pour l'électricité, absolument, ouais. Dans les Outre-mer, c'est à peu près 10 fois plus d'émissions carbone par kilowattheure, donc entre 700 et 900 grammes de CO2 par kilowattheure produit, parce qu'en fait, grosso modo, on brûle du fioul ou de la biomasse, dont l'origine est un peu incertaine encore. Quand
oui, alors effectivement, parlons du dossier biomasse. Aujourd'hui, il est en discussion aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. On sait que, alors on voit sur l'Hexagone que finalement, la biomasse est une espèce de courroie de sécurité dans les énergies renouvelable et que y a beaucoup d'opposition parce que la biomasse elle doit nourrir, elle doit on a des difficultés et je voyais récemment en Guyane il y a des oppositions très fortes contre le projet biomasse.
Bien sûr, ben, c'est un peu logique parce qu'en fait la biomasse il y en a de toutes sortes, il y a plusieurs façons de la produire. Et donc, si c'est tout le questionnement qui est en cours là, sur la conversion des moyens de production d'électricité, du fioul vers la biomasse, il faut savoir d'où vient la biomasse, comment on la produit, comment on l'amène ensuite jusqu'au territoire qui est supposé en faire la combustion pour faire de l'électricité. Donc ça, c'est une question de fond, hein, forcément, à laquelle il faut répondre. Moi, je trouve un peu dommage, vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais de ne pas utiliser l'énergie du soleil qui est présente tout
bien
le temps
sûr.
En fait dans ces territoires-là, qui a du coup quasi aucun impact carbone, puisqu'une fois que les actifs sont construits, on va les exploiter pendant 30 ans et on voit que ça se comporte très bien, avec très peu de maintenance et une grande fiabilité. Donc je trouve un peu dommage de se poser la question de la biomasse.
Oui, mais parce qu'on n'a pas assez de foncier. Et de toute façon, on retrouve le problème du foncier aussi bien pour le solaire que pour la biomasse.
Oui, mais à la fois, c'est des territoires qui consomment assez peu d'électricité, donc du foncier, il y en a quand même de disponible. Il y a toutes les toitures de tous les bâtiments commerciaux, de tous les bâtiments qui ont été construits en fait au fil des années, qu'on pourrait équiper, qui représentent un gisement de capacité de production qui est très important. Il y a du foncier délaissé, il y a beaucoup de délaissés. Vous voyez, là, on travaille avec le Centre Spatial Guyanais, où en fait, ils ont un territoire immense et ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de délaissés fonciers qu'ils ne pouvaient pas utiliser parce qu'il y avait une zone tampon autour des pas de tir. Et donc, en fait, ils sont en train d'équiper petit à petit, année après année, tous ces délaissés fonciers avec des centrales photovoltaïques au sol pour alimenter en électricité, soit la production d'hydrogène utilisée par le centre spatial, soit carrément de l'électricité raccordée sur la boucle de tension du site.
Mais vous pensez toujours en termes d'électricité.
Oui.
L'électricité, pour l'instant... peut pas combler le besoin en énergie industrielle, par exemple, ou des transports.
Alors, les transports, je pense, c'est le plus gros sujet, parce que l'industrie dans ces territoires-là, elle est quand même assez limitée. Mais de toute façon, même dans les transports, on va vers une électrification de masse de tous les usages. C'est-à-dire qu'il y a une lame de fond qui est partie là, avec l'électrification de la mobilité personnelle, avec les véhicules électriques, la mobilité de groupe avec les bus électriques.
Et ça, en Chine, ça a avancé ?
Et voilà, si on fait la transposition avec ce que j'ai pu voir en Chine. Moi, il y a 10 ans, j'ai quitté un Shanghai qui était hyper bruyant, hyper pollué, où on ne voyait pas le ciel à cause du brouillard de pollution. Et je suis arrivé cet été dans une ville absolument silencieuse, avec un ciel bleu, quasiment plus de particules. Alors, c'était l'été, c'est sûr que c'est à comparer avec les mois d'hiver où il y a peut-être un peu plus de pollution. Mais une ville silencieuse avec tous les scooters électriques, des vélos électriques, des voitures électriques. Et la transition s'est faite en moins de 10 ans, vous voyez. Donc, je ne suis pas certain qu'on arrive à avoir une transition aussi rapide et aussi efficace qu'eux, parce qu'on a d'autres problématiques. Et surtout, peut-être qu'on écoute un peu plus la population. Et sur ce point-là, c'est quand même positif. Mais ce qui est certain, c'est que tous les usages vont vers l'électrification. Et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Il y a quelques usages comme peut-être le fret maritime ou de l'aviation qui auront plus de mal, puis c'est eux qui consommeront les derniers litres de carburant qu'on utilisera encore, mais tout le reste sera électrifié. Donc
Mais avec une concurrence, on le voit pour les voitures électriques, par exemple. Les voitures électriques chinoises sont en train d'envahir l'Europe, qui ne sait comment réagir. Et réagit parfois assez mal, d'ailleurs.
Ben oui, c'est forcément pas très habile ce que fait l'Europe, parce qu'en fait, on a pris beaucoup de retard et on a pris des positions politiques sans vraiment se soucier de l'outil industriel et de notre capacité à suivre ces transitions-là. Donc, en fait, une voiture électrique, c'est une batterie avec des roues. Hein. Et comme je vous le disais à l'introduction, les pros de la batterie, les numéros 1 de la batterie dans le monde, c'est les Chinois.
Bon, écoutez, je sens qu'on aurait encore mille et un dossiers à reprendre ensemble. Je vous remercie, Frédéric Jaffre, et nous aurons sans doute l'occasion de reparler ensemble. Voilà, je vous dis au revoir et puis bon week-end.
Merci, bon week-end à vous aussi. Au revoir.
Alors avant de rendre l'antenne quelques news, Montpellier vient de consacrer une journée aux droits de la mer et des solidarités maritimes à l'initiative de SOS Méditerranée, de la région, du département, de la métropole, sans oublier bien sûr le Parlement de la mer. Alors il a été question de la Méditerranée comme espace humanitaire autour de la question « Faut-il protéger les vies ou les frontières ?» Entre 2014 et 2023, 63 000 personnes sont mortes noyées, et pour la moitié, en Méditerranée. Pour les autres, je renouvelle mon conseil de lecture de l'excellent polar d'Olivier Norek sur la jungle de Calais, Entre deux mondes. Au Corum, se sont déroulées les assises de Medvallée. Recherche, industrie, personnel, pouvoir public étaient rassemblés pour évoquer la nécessité et la réussite du process montpelliérain. Cette capacité à travailler, toutes disciplines confondues, à un thème environnemental, soit de santé ou d'alimentation. Ce process montpelliérain sera présenté à la COP16 à Cali, en espérant qu'il s'inscrive dans les objectifs et devienne reproductible. Toujours du côté de l'adaptation climatique, une rencontre à Arles pour parler des trois grands deltas du bassin méditerranéen menacés par la montée des eaux. Le Rhône, le Pô, le Nil. Bien sûr, tout cela est animé par Éric Orsena, académicien, président de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves. Donc, bon week-end à tous, à la semaine prochaine, et sans doute nous parlerons des enjeux de Cali et de la COP16 quand les discussions commencent dimanche 20 octobre.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.